Nous sommes le jeudi 19 mars. Il est 21h et beaucoup moins de poussière que la semaine dernière sur Radio Canu 102.2. Bienvenue dans le nerf de la game. Le nerf de la game, l'émission qui aborde le monde du jeu vidéo par sa face alternative. Chaque semaine ou presque, vous retrouverez ici un cocktail d'actu sur les rouages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent la curiosité, surtout du côté indépendant du paysage vidéoludique. Bonsoir Romain.
Salut Xavier.
Comment vas-tu ?
Ça va et toi ?
Eh ben écoute, ça va Romain qui, depuis qu'il a décidé de jouer tous les dimanches à Cathy Rain, vous pouvez le voir chevaucher sa bécane et mettre des coups de taser à des anciens acteurs sur sa chaîne, Ruvon.
C'est ça, c'est la base.
c'est la vie.
C'est comme ça qu'on règle les problèmes.
C'est la vie qu'il a choisie. Cette semaine, elle va échanger sa manette de jeu contre une marmite de 2 litres de contenance.
Pour le plus grand. Plusieurs.
Plusieurs marmites de 2 litres de contenance pour le plus grand bonheur des participants à la Scientific Game Jam. Bonsoir Bettina.
Salut.
Salut.
Est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement la Scientific Game Jam ?
Bah ouais, mais tu vois, tu spoil ma chronique en fait.
Ah, mais tu m'as dit des news, mais tu n'as pas dit Scientific Game Jam. Eh bien, plus tard. Très bien, plus tard.
C'est prévu, j'en parle.
Qu'est-ce que il y a cette semaine ? Cette semaine, on va parler du PEGI, ce fameux code couleur européen du jeu vidéo qui a annoncé récemment des nouvelles choses. On va voir un peu c'est quoi le PEGI, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans. Mais d'abord, on va parler des nouvelles des gens qui font des jeux vidéo sur Lyon et ses alentours et peut-être de la Scientific Game Jam, qui sait ?
Ah, peut-être. Oui, alors je vais vous parler de pardon, j'imagine qu'on dit pardon et pas pardon, mais c'est Pardon My French Toast de Reroll de Studio qui est sorti sur Steam le 18 décembre. C'est un jeu de plateforme 3D, également un collectathon si vous aimez ça, où on incarne un toast qui peut étaler des sucreries sur lui-même pour obtenir des capacités. Parce que pourquoi pas. Donc par exemple, du miel pour coller, ce qui nous permet d'escalader des murs ou tirer des objets. Du chocolat pour détruire, parce que le chocolat fige en refroidissant, ça nous permet de casser des obstacles. Et puis bien d'autres, hein, y a une dizaine de capacités différentes. Donc tout ce petit monde se compose en fait de toutes sortes de friandises. C'est un jeu rigolo et coloré pour les amateuristes du genre plateforme 3D.
Les amis des dentistes.
Oui. Une démo est dispo aussi, vous voulez l'essayer. Il coûte 19,50€ sur Steam.
Le fameux. Donc, c'est le jeu de la biscotte, c'est bien ça?
Ouais.
Non. Ah, retire ça tout de suite.
Putain.
Quelle horreur.
T'es insupportable.
Sors d'ici.
Non, mais du coup, le French toast, en fait, c'est le pain perdu et voilà quoi. Donc là, vous les voyez pas, mais ils sont morts de rire.
Quel enfer.
Vous êtes intenables. Donc j'enchaîne, c'est pas grave. Donc la seconde news dont je voulais parler, c'est effectivement les Scientific Game Jam 2026. On en a déjà parlé dans cette émission, mais je vais le redire en quelques mots. Le concept, c'est de créer un jeu durant un week-end autour de la thématique de recherche d'un ou une chercheuse. Du 30 janvier au 1er février, il y en a eu une à Nancy. Le week-end dernier, donc du 13 au 15 mars, c'était l'édition en ligne. Du 27 au 29 mars, ce sera à Avignon. Et du 10 au 12 avril, ce sera à Toulouse. Donc il reste quelques places pour Avignon et Toulouse pour celles et ceux qui aimeraient y participer. Si vous n'êtes pas sur Lyon, si vous nous écoutez sur Internet et que vous êtes dans le coin, vous trouverez les infos sur scientificgamejam.org. Et donc ce week-end se tiendra la Scientific Game Jam de Lyon. Cet après-midi, quand j'ai regardé, il restait une place en tant qu'artiste et deux places en tant que sound designer. Donc voilà, si vous êtes artiste ou sound designer, n'hésitez pas à aller vous inscrire, mais dépêchez-vous par contre, parce que ça commence demain. Et donc, à savoir que la restitution à partir de 17h le dimanche est ouverte à toutes et tous. Donc vous pouvez venir assister aux présentations des jeux et ensuite les tester. Ça se passera à l'ENS, salle Condorcet, 1 place de l'école dans le 7e. Et voilà, et donc effectivement je vais faire à manger pour ces gens pendant tout le week-end, si ça peut vous encourager à vous inscrire.
Alors, du manger, venez.
C'est ça. À la, moi, c'est pour ça que je viens dimanche, hein, perso. Ah bon.
C'est pour le pot.
Le pot. Il y a à boire gratuit, comme la veille. Attends.
Il y a pas d'alcool. Attention.
Quoi?
Je vends très mal, lol.
Voilà. Non, mais. On en a parlé des.
Mais l'ENS, c'est une école.
La communication, c'est important.
L'ENS, c'est une école, il n'y a pas d'alcool, voilà.
Bon, bref, je ne revendique pas là-dessus. Écoles. Je ne revendique absolument pas là-dessus.
Légalement, pas d'alcool.
Ça marche. Merci, Bettina. Avant de partir sur le sujet principal, je rappelle que, comme chaque semaine, on remercie le collectif Presse F5, qui héberge notre podcast Le Nerf de la Game.
Les replays de ce que vous êtes en train d'écouter.
Voilà. On remercie Radio Canut de nous permettre de venir dans ce studio. Et on vous rappelle que le 24 mars prochain aura lieu au Troquet Taquin un autre événement pour lequel vous pouvez aussi vous inscrire, qui s'appelle le Sex Nerd and Rock'n'Roll, qui est donc un quiz blind test organisé par Romain et moi-même, où c'est tout dans le nom en fait. Hein. Il y aura du rock'n'roll, il y aura du nerd. Il y aura des questions et il y aura aussi à boire en fait.
Oui, voilà. C'est ça. Et il y aura de la musique.
Voilà, c'est ça.
Du rock.
C'est ça. Voilà. Et donc, vous pouvez pour vous inscrire, vous allez sur les réseaux sociaux du Troquet Taquin et vous pourrez vous retrouver pour prendre une table notamment réservée. Vous pouvez venir seul, vous pouvez venir avec plein de gens. On sera là pour vous accueillir. Parlons du Peggy.
Et qu'est-ce que c'est Peggy ?
Le Peggy, donc.
Ah, tu t'attendais pas à ça.
Non.
Ah ouais, écoute.
Ah ouais, là on était sur un Peggy 3, effectivement.
Voilà, exactement. Et, écoute, dans l'ordre.
C'est ça.
Quand on sera au Peggy 18, tu vas moins faire mal.
Oula.
Oh là 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 là. Donc, le Peggy, c'est quoi ? Donc, c'est un système d'âge et de pictogrammes qui est créé en 2003 pour aider les consommateurs et surtout normalement les parents à choisir des jeux adaptés à leurs enfants pour selon leur âge et selon le contenu. C'est des mentions qui sont obligatoires sur toutes les boîtes en France, sur toutes les boîtes de jeux vidéo et sur chez tous les distributeurs aussi. Avant c'était que sur le physique. Donc quand ça a été créé, maintenant c'est aussi sur
les plateformes
de distribution. Ouais.
Pour en parler, parce qu'effectivement, c'est pas encore complètement.
C'est censé être obligatoire. Je dis pas. Alors, on aura un grand débat sur à quoi sert le Peggy et surtout sur.
Et pourquoi ça sert à rien.
Et sur comment il est appliqué de manière générale.
Exactement.
Alors, juste pour poser le décor assez rapidement, donc Peggy, Pan European Game Information. Voilà, donc le principe c'est d'avoir des indications sur le contenu en fait du jeu, violence, langage, sexe, drogue, ce genre de choses, et on le voit sur les
comme
logos.
Dans notre quiz.
c'est exactement. Okay. Et on le voit donc les logos. Il y a très exactement 5 tranches différentes. Peggy 3, Peggy 7, Peggy 12, Peggy 16 et Peggy 18 sur les boîtes physiques et sur la majorité des stores consoles et PC. En France, c'est un système qui est homologué par le ministère de l'Intérieur. La classification est obligatoire pour tout jeu distribué. On verra ensemble comment se fait la demande de Peggy et comment elle est déterminée. Mais avant qu'on commence, je vous propose de jouer à un petit jeu. Je vais vous donner à chacun votre tour, Romain, Bettina, des jeux vidéo. Et je vais vous demander c'est quoi le Peggy officiel de ces jeux. Au début, ce sera facile, et après, ce sera un petit peu moins facile.
Je suis même pas sûr de trouver ceux qui sont faciles.
Ah ouais.
Dans la situation actuelle. On
est oui, voilà, ils sont aujourd'hui.
Dans la règle.
J'ai pris ceux à aujourd'hui, ils sont à ce Peggy là, sachant que entre 2003 et certains ont évolué en fait. Mais voilà. Bettina.
Ouais.
Assassin's Creed Shadow. Jeu donc d'Ubisoft, un jeu où on incarne un assassin qui tue des gens.
Donc tu t'as dit c'est quoi déjà les Peggy
3, 7, 12, 16, 18.
Bah je pense que c'est 7, non?
C'est 18.
Mais non.
On tue des gens, et oui. On les égorge.
Bah, ok, bah, très bien. Mais justement, je m'attendais à ce que ce soit extrêmement mal fait et que le PEGI soit beaucoup trop bas, mais ok, d'accord.
Non, c'est 18. Alors, justement, on verra. Il y aura des choses un peu étranges, mais oui.
Ok.
Non, Assassin's Creed, 18.
Ok.
On continue sur le facile. Romain, GTA 5.
18,
effectivement.
Présence de drogue, présence de meurtre, présence
De sexe.
De sexe, présence de comportement injurieux, enfin de dialogue.
Et globalement, encouragement à être pas bien. Voilà, c'est pas bien.
Alors, oui, bon.
C'est pas bien. GTA 5, c'est pas bien. Roblox, c'est bien. Bon.
On parle des prédateurs.
Oui,
j'ai failli le dire et je me suis retenu.
Non, mais d'accord. Monsieur a choisi son corps.
Roblox 3+. Ouais, se dit en passant.
Mais oui.
Pas pour longtemps.
Bah oui, voilà. En tout cas, pour l'instant. Bettina, Mario Kart World.
Bah, normalement, là, c'est OK, tu vois. Donc, je sais pas. Sachant qu'il n'est pas non plus hyper facile à jouer. Donc, justement, je dirais un PEGI 7 parce que. Il y a quand même des contrôles à maîtriser d'une certaine manière, mais...
Eh ben, c'est un PEGI 3.
Parce qu'en fait, la difficulté du jeu n'est pas du tout prise en compte.
C'est tout ce qui est difficulté, accessibilité du jeu, on s'en tape. C'est uniquement le contenu de ce qui est affiché, de ce qui est montré dans le jeu.
Ok.
Voilà. Romain, Minecraft.
Oh, intéressant comme question. J'ai envie de dire PEGI 7.
C'est un PEGI 7, effectivement. Ouais. C'est un PEGI 7 parce qu'il y a des monstres qui sont pas beaux.
Voilà. Parce qu'en fait, c'est pas uniquement la présence de violence qui va te caler.
Oui.
C'est les niveaux de violence.
Oui, c'est ça. Mmh.
Il va y avoir une gradation aussi. C'est pas uniquement la présence de violence, ça va.
Oui, voilà. Non, mais
c'est
après,
un peu plus subtil.
Voilà, il y a quand même un peu de violence où on faut tuer des ennemis, donc PEGI 7. Bettina, Super Mario Wonder.
Alors je l'ai pas fait, mais
c'est un Mario relativement classique,
non,
très
bien.
Coloré.
Je vois très bien, mais du coup je réfléchis. Est-ce qu'il y a des moments de violence? Est-ce que, enfin oui, comme dans Mario, quoi, mais pas de, bah, je sais pas, PEGI 3, non?
C'est un PEGI 3, effectivement. Ouais, ce qui montre qu'on peut tuer des trucs qui sont des monstres dans Minecraft, mais s'ils sont des champignons qui marchent, et ben on peut les défoncer, ça ne pose aucun problème.
Mais oui, parce que
ils nous sautent dessus.
Parce qu'il y a, oui, parce qu'il y a pas de sang, ils sont mignons et ils font pas peur.
C'est vrai que dans Minecraft, techniquement, j'ai vu mon fils y jouer. Et effectivement, on peut cramer des gens, littéralement.
Oui.
Donc bon. Donc 7 ans.
Très bien.
Voilà.
Très bien.
Donc, l'immolation à partir de 7 ans, d'accord.
C'est ça.
C'est
ça.
C'est la limite.
Romain, FIFA 22.
Dans l'état actuel des choses
FIFA 22 aujourd'hui, oui.
7.
3.
Ah, j'aurais dit 3 aussi, du
3.
Coup.
3, il n'y a pas de violence. Un tacle, c'est pas violent.
Alors, justement, écoute, on peut en parler à Moussa Nekate, qui vient de se faire expulser dans le match entre Lyon et Celta Vigo.
Ça suffit.
C'est en direct, d'accord?
Oui, non, mais.
Je t'écoute pas, je regarde le match.
Déjà, tu vas te concentrer, un, sur l'émission, et de deux, au bout d'un moment, la CAN, il a perdu. C'est comme ça.
Tu viens de la chercher.
Bettina, Final Fantasy Remake. Parce que le premier Final Fantasy est sorti avant l'invention du PEGI en 2003. Ouais. Donc
alors attention, parce que dans Final Fantasy Remake, on est terroristes, des éco-terroristes. Donc
on est un truc qui n'existe pas, mais continue.
Donc je sais pas, PEGI 16.
PEGI 16.
Allez.
Bravo. C'est le seul jeu PEGI 16 que j'ai trouvé, parce qu'en général, c'est soit vas-y, un petit peu de violence, on met en 12, soit vas-y, 18. 16, j'en ai pas trouvé beaucoup. Et oui, c'est PEGI 16. Sachant que quand il a fallu faire le premier Final Fantasy et qu'on a remis le PEGI dessus, ils l'ont mis à 12.
Okay.
Je pense que c'est parce qu'il y a des, je sais pas, la mise en scène, avec un jeu. J'imagine des choses beaucoup plus détaillées dans le remake, etc.
C'est peut-être le photoréalisme qui rajoute ça. Je sais pas.
J'en ai plus que 3. Est-ce que tu connais un jeu qui s'appelle Octopath Traveler?
De nom.
Okay.
J'ai pas joué.
Mais est-ce que tu vois à peu près le contenu que ça peut avoir?
C'est un tactical dans ton parcours.
C'est ça.
Où on se tabasse donc contre des créatures.
C'est ça.
Très joli pixel art.
Du coup, j'ai envie de dire 12.
C'est 12, effectivement. Voilà. Notamment à cause de... et c'est pas tant le fait de tabasser des créatures, c'est notamment des thématiques sur certains personnages qui ont été réduits en esclavage et ou avec de l'exploitation... de l'exploitation sexuelle clairement sur un certain personnage, donc
voilà. Tu m'aurais dit ça avant, j'aurais dit 16.
Ouais, ah, mais ouais, ouais, mais il est en, mais il est à 12 en
okay.
tout cas.
Okay.
Bettina, est-ce que tu connais un jeu qui s'appelle Balatro?
Oui.
Balatro, donc un jeu de cartes. Voilà.
Oui. Oui.
Mais
un jeu de cartes. C'est pas pour rien que je t'ai pas posé à toi. Combien pour Balatro?
Bah non, mais du coup, si vraiment on prend pas en compte le gameplay, l'accessibilité, etc. Enfin, si c'est vraiment juste des histoires de violence et de thématiques, bah 3 du coup.
Eh ben, c'est un PEGI 18.
Bah, ah bon?
Fait PEGI 18 parce que ce sont des jeux d'argent et c'est pas bien les jeux d'argent.
Ça représente un jeu d'argent, ça représente le poker. Alors, et la mise.
J'y ai pensé, mais du coup, ouais, je suis surprise. Ok.
Mais
ça, d'ailleurs, fait
ça fait partie des côtés. Hors antenne, on a parlé de The Wreck, etc. Ouais. Mais, et ça fait partie des exemples qui sont régulièrement donnés pour dire il y a des choses bizarres dans PEGI.
Et d'ailleurs, il a été plus ou moins. Enfin, il a évolué plusieurs fois.
Ouais.
Il a
été mais actuellement, c'est 18. Hein.
Voilà, mais il a été brinque-ballé de différentes catégories entre sa sortie maintenant.
Et je vais finir avec Vampire Survivors.
Ouh, Vampire Survivor, c'est un nom. Bonne question. J'ai envie de dire 7.
Eh bien, c'est 12.
Ok.
Parce que il y a des vampires.
Ça fait peur. Sang,
ça fait peur.
Mais pas du tout. C'est en pixel art moche.
C'est mais ça fait peur, les pixel art moches.
Voilà. Oui, mais bah non, mais en fait, lui, ça lui fait peur.
En fait,
on est d'accord.
Tu vois, le jeu serait beau, serait PEGI 7. Tu vois, comme c'est moche, c'est PEGI 12.
Très bien. Et donc, Animal Crossing. Avec notre ami qui nous exploite.
Oui, le capitalisme. Nuke.
Bah 3, non 7, pas à cause de l'argent, je crois.
Ah, ça va changer.
Je crois que c'est 7 à cause de la gestion financière, je crois que c'est 7.
Fait partie des trucs qui auraient pu être concernés par le changement.
C'est ça. Donc bah merci à tous les deux pour avoir joué le jeu du PEGI. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant 2003, donc avant le PEGI, chaque pays faisait à sa sauce avec des trucs obligatoire, des trucs pas obligatoires, des pays qui où il y avait des organismes qui où il y avait des organismes qui allaient voir les jeux et qui les classifiaient, des pays où bah démerdez-vous, faites ce que vous voulez, et c'était la fête du slip, etc. Et à la base, le PEGI, c'est pas une demande de régulation de l'Union européenne, mais c'est une demande des éditeurs. Pourquoi ? Parce qu'ils en avaient marre de faire 44 versions de leur boîte pour tous les pays européens. Mmh. Et donc, ils voulaient dire, tiens, est-ce qu'on peut faire un truc plus simple qui nous permet de dépenser moins d'argent ? Pardon, d'informer le consommateur de façon équitable dans tous les territoires.
Surtout dans le cadre d'une économie européenne commune.
Oui, voilà, c'est ça. Et donc le truc, c'est que aujourd'hui le pays est quand même utilisé. Alors, c'est pas européen parce que c'est pas uniquement l'Union européenne. C'est le pays est utilisé dans plus de 35 pays, hein, donc et des pays hors Union européenne aussi. Donc, il a été conçu à la base par la Fédération européenne du jeu vidéo, donc Interactive Software Federation of Europe, aujourd'hui qui s'appelle Video Games Europe, avec le soutien de la Commission européenne. La Commission européenne, ce sont donc des gens pour qui on a voté, qui ont été choisis. La Commission européenne.
Je ne sais jamais le lien entre le Parlement et la Commission.
Alors, le Parlement, c'est les gens pour qui on a voté. Voilà. La Commission européenne.
La Commission européenne,
en fait, qui ont été choisis par les différents gouvernements des pays. Donc, en gros, quand je dis on a choisi, indirectement.
Autant que les sénateurs.
Voilà. Alors que la Fédération européenne du jeu vidéo, clairement, en fait, ce sont les plus gros acteurs du jeu vidéo européen qui se rassemblent entre eux et qui décident de choses, notamment.
Qui font en sorte de ne pas se faire emmerder par les régulateurs.
C'est une logique d'autorégulation, comme on dit.
Tout à fait.
Voilà.
Mais c'est ça. Pour éviter de se faire réguler par au-dessus.
C'est ça. L'idée, en fait, c'est effectivement, comme tu le disais, c'était que l'industrie se dote elle-même d'un système lisible plutôt que d'attendre des interdictions éclatées par pays.
pas du tout adapté, évidemment, à l'économie, voyons.
Voilà,
c'est ça. Il ne faut pas contraindre les entreprises.
C'est ça.
Ça, c'est Anne Desvoissoux qui l'avait dit.
Oui, c'est vrai, ne pas être contraint. Alors, il ne faut pas oublier aussi d'où ça vient, c'est-à-dire que le... Alors, ça a été créé en 2003, mais donc, il y a eu plein de discussions à partir des années 2000, des années 90. Souvenez-vous aussi, c'était quoi les polémiques sur le jeu vidéo des années 90. Souvenez-vous de Mortal Kombat. Souvenez-vous de Carmageddon. Souvenez-vous de GTA et des discussions qu'il y avait sur est-ce qu'il faut pas prévenir les parents que ces jeux vont corrompre les enfants.
Tu veux dire qu'à l'époque, on se disait, est-ce que les jeux vidéo ne se rendent pas violents ?
Voilà, c'est ça.
Comme il y a trois semaines, Macron l'a dit.
Non, mais là, c'est pas pareil. Regarde, non, non. La preuve que ça rend violent, tout à l'heure, Bettina a dit qu'Assassin's Creed, c'était Peggy 7. Donc, voilà, au bout d'un moment,
I rest my case. Et j'ai dit l'immolation à partir de 12 ans, c'est OK.
Voilà.
Très bien.
Voilà.
7 ans, je sais plus, j'ai oublié.
Il y a toujours des morceaux isolés dans cette émission, c'est toujours intéressant.
Moi, je dis, on les diffuse en direct pendant tout l'Indie Game Show. en boucle. Voilà. Pendant tout l'événement.
Pendant les tables rondes.
Entre les tables rondes, parce que je mets toujours un peu de musique
voilà.
En attendant. Et on peut
les soundboards, t'as appuyé sur un bouton, il y a un son qui sort.
Et donc, voilà. Ça a été. Déjà, le faut bien comprendre que le PEGI a été construit dans une, il a été construit pour que il y ait un contrôle minimal des instances, des institutions nationales et européennes en tout cas.
Ouais, voilà. C'est une proposition préventive à quelque chose qu'on
impose en fait,
qui serait venu leur imposer voilà. Par-dessus.
Parce que justement en fait, ils voyaient la tournure du débat, ils voyaient comment ça aurait pu tourner de façon beaucoup plus coercitive s'ils n'avaient pas pris les devants, c'est-à-dire de dire bon voilà, on va regarder les jeux et on va interdire de les mettre à disposition, de les distribuer si jamais ils ont ça dedans quoi. Et est-ce que vous savez, vous, par exemple, comment ça se passe lorsque j'ai un jeu et je veux définir son PEGI ? Est-ce que vous savez comment ça se passe ? Est-ce que vous avez déjà eu des discussions avec des développeurs, des éditeurs pour savoir comment ça se passait ?
Non, j'ai jamais demandé et j'ai jamais sorti un jeu à moi, donc j'en sais rien.
Non, jamais. J'ai suivi un peu, j'ai une vague idée, mais vas-y.
Eh ben, c'est simple, t'envoies un formulaire. T'envoies okay. Un formulaire où tu dis déjà quel PEGI tu vas avoir.
Donc c'est déclaratif.
À la base, c'est déclaratif.
Okay.
Et en fait, les classifications PEGI, elles sont déterminées par deux organisations indépendantes. Une qui s'appelle le NICAM pour le PEGI 3 et 7. Le NICAM, c'est l'Institut néerlandais de classification des médias. Et non, je ne le dirai pas en flamand.
Ah bon ?
C'est mort. J'ai le truc, hein. Mais il y a. Écoute, il y a deux.
Il y a des gens qui font confiance aux Hollandais pour...
Il y a trois voyelles, il y a 18 consonnes, non. je peux pas.
On reparlera de la classification allemande après.
C'est vrai qu'elle était pas mal celle-là aussi. Et donc ça, c'est pour pour les PEGI 3 et 7, ça passe par le NICAM, la version néerlandaise. Et pour 12, 16 et 18, c'est par... le Games Rating Authority, qui est la version UK, donc la version britannique.
D'accord, donc c'est pour ça que tu étendais effectivement le PEGI à des pays hors de l'Union Européenne.
Voilà, c'est ça. Et c'est encore le cas aujourd'hui, hein, même depuis le Brexit, cet état de fait continue. C'est-à-dire que l'intégralité des jeux, en fait, quand tu as un PEGI 3, comment ils peuvent aussi bien séparer ? Tu te dis, normalement, il y a un truc qui va dire, on va d'abord regarder le jeu et puis on va savoir si c'est trop... Non. D'abord
tu demandes en fait.
D'abord tu dis bonjour, j'estime que mon jeu il est tel PEGI, mm-hmm. parce qu'il y a tel truc dedans. Il y a si c'est 3-7, ça va aux Pays-Bas. Plus, et ben ça va au Royaume-Uni. Et ils te disent OK ou pas OK selon voilà. Et après, t'as un système de réclamation si jamais t'es pas d'accord.
Donc du coup, il y a une vraie stratégie commerciale à demander à un certain PEGI en se disant ah là là, si on le met PEGI 18, eh ben ça va faire vendre auprès des adolescents.
Complètement, complètement, c'est un truc dont je voulais parler plus tard, mais oui, il y a.
Ah, c'est moi qui t'ai spoilé ta chronique.
Non, mais écoute, tu sais,
moi ce que j'aime bien, c'est la jubilation qu'il y avait dans ta voix.
pour une fois que j'ai inversé.
Ah, voilà. T'as fait mal malin.
Hey, Tu vois que c'est bien de saboter quand même. Tu vois que c'est bien le sabotage.
C'est uniquement parce que je me suis vengé que ça m'a fait plaisir. Sinon, oui. Le sabotage gratuit, ça ne m'intéresse pas.
Mais tu y viendras. Oui.
C'est longtemps que tu es dans l'émission. Ça viendra.
Mais oui, effectivement, ça. Pour le coup, on pourra en parler tout à l'heure, mais ouais. Ça, c'est clairement une stratégie commerciale de le mettre soit en PEGI 18. Et genre, c'est en PEGI 16, non, je le veux en PEGI 18. Mmh. Ou, contrairement, c'est en PEGI 12, je le veux en PEGI 7.
Oui, bien sûr.
Maximum, marché le plus gros possible.
Bah, de toute façon, je pense que la strat, c'est ça. C'est soit d'avoir le PEGI le plus élevé parce que, oh là là, ça fait vendre l'interdit. Soit avoir le PEGI le plus bas, comme ça, tout le monde peut l'acheter sans sourciller, quoi.
Oui, c'est ça. Alors ça, ce dont je parlais, ce formulaire-là, c'est censé être la version pour les jeux boîte, en tout cas les jeux premium.
Okay.
Parce que forcément, il y a tout le cas des jeux dématérialisés, purement dématérialisés, et les jeux en ligne, ou les jeux mobiles, où là c'est quelque chose de légèrement différent. Le principe est le même, sauf qu'on ne va pas passer ni par le NICAM, ni par le GRA, mais on va passer par l'IARC, qui est la version internationale en fait, qui est la version internationale de la chose, et qui eux sont américains.
Parfait.
Voilà.
Alors qu'à la base, le PEGI c'était justement
C'était
justement pour éviter que ce soit le SRB,
tais-toi,
la version américaine de ces classifications qui viennent s'imposer au reste du monde.
Taisez-vous, El Kabash.
Notamment à l'Europe.
En fait, le truc, c'est qu'il y a eu un accord entre les gens qui gèrent le PEGI et l'instance internationale, parce que quand ils ont vu les trucs en ligne, ils ont vu qu'ils étaient à la bourre, ils n'ont pas voulu le gérer. Et ils ont dit, vas-y, on se met d'accord sur des critères et on part là-dessus. Voilà. Ce qui prouve de manière générale que tout ça est extrêmement carré.
Oui, ça a été fait.
Et très contrôlé de façon.
Bien sûr, ça a été pensé en avant.
Ouais,
enfin,
voilà.
C'est vraiment, tout a été prévu, quoi.
Voilà. Vous le sentez, la partie du débat, le PEGI sert à rien ou pas? Parce que.
En fait, pour l'instant, on n'a pas encore évoqué un élément effectivement très important du PEGI.
Oui. Alors, effectivement, l'impact du PEGI sur les jeux et sur le marché. C'est-à-dire, j'ai un PEGI 18, j'ai un PEGI 3, j'ai un PEGI 7. Est-ce qu'il y a des contraintes pour moi en tant qu'éditeur de jeu, selon que j'ai un jeu 3+ et un jeu 18+?
Non.
La réponse est lol no.
Et même au niveau des revendeurs, dans le sens où un jeu en boîte, tu peux aller à la Fnac, oui. Tu peux être mineur, tu peux acheter techniquement un jeu recommandé, conseillé aux plus de 18 ans.
Non, mais
parce qu'il n'y a pas de d'interdiction.
Le truc, c'est au-delà de ça. C'est-à-dire que, par exemple, des livres qui sont recommandés aux plus de 18 ans ne peuvent pas être exposés de la même manière que les autres livres.
Et pareil pour les films.
Pareil pour plein de trucs.
Voilà. Même la musique doit avoir ce gros sticker parental advisory.
Ça c'est américain.
Mais c'est la même logique.
Et pour le coup, dans la musique, il n'y a pas de restriction légale pour dire tel truc, tu peux pas le mettre devant.
Ouais, ok.
Il n'y a pas de restriction légale pour dire ça.
Par contre, pour
tout ce qui est film et livre, clairement, si c'est plus de 18, tu ne peux pas l'exposer comme ça.
Ah, les films, c'est différent. C'est pas du tout. C'est autre chose. C'est un autre organisme qui le gère. Et c'est
la musique aussi, les livres aussi, les films aussi, tout ça, c'est.
Mais
c'est
en magasin, dans les rayons, tu peux pas.
En magasin, dans les rayons, tu peux pas.
Oui, parce que
tu pars de la Fnac. La Fnac, elle a le droit de vendre des trucs 18+, mais vu comme c'est chiant, elle ne le fait pas, en fait.
C'est ça, parce que
c'est chiant
de bloquer l'accès, de vérifier qui vient accéder au truc. On le connaissait à l'époque, quand on était, parce qu'on est vieux, dans les vidéoclubs. À l'époque, quand on allait louer des cassettes vidéo, il y avait l'espace aux cassettes réservées aux majeurs qui était extrêmement limité en termes d'accès.
Oui.
Dans un coin, derrière un rideau.
Ouais.
C'est ça. Et
dans le cas du jeu vidéo, non.
Et par exemple, en France, si tu veux acheter des clopes, tu dois justifier ton âge normalement. Tous les buralistes ne le font pas, mais c'est ce qui est demandé, d'accord.
Oui, j'aurais pas fait le lien avec ça, mais
je parle juste de il y a des choses en France où quand il y a clairement dit il faut que tu sois majeur, il y a plein de trucs, on a des moyens, enfin il y a des choses qui sont demandées aux distributeurs, choses qui sont normalement réservé à des gens qui sont plus de 18 ans, De contrôle, des restrictions de mise en place, des restrictions d'affichage, des restrictions de mise en rayon, etc., etc. Mmh. Ce n'est pas le cas pour le jeu vidéo. Le jeu vidéo, le PEGI, est simplement une indication. C'est-à-dire
c'est
que
une recommandation,
c'est une recommandation. Tu peux, par exemple, il n'y a rien qui empêche quelqu'un, par exemple, je sais pas, Resident Evil 9, Resident Evil 9,
9,
Requiem, Requiem,
Resident Evil,
Evil. qui est donc disponible, j'imagine en boîte pour PS5, pour là. Tu peux envoyer ton gamin de 7 ans avec des sous pour aller l'acheter à la FNAC et il n'y a aucun problème.
Parce que c'est une recommandation.
Parce que c'est une recommandation.
Pas de limitation juridique, ce que tu veux.
Voilà. Et ça, pour le coup, c'est assez important. Donc c'est pour ça que le PEGI aujourd'hui est avant tout un enjeu marketing. C'est-à-dire, comment tu veux vendre ton jeu, comment tu veux discuter sur ton jeu. Le PEGI 18 est devenu un peu comme ce dont tu parlais, le parental advisory sur les albums de hip-hop ou de métal. Attention, oulala, oui. C'est très méchant. Quoi.
Oui.
Attention, ils disent le mot en F.
Voilà, c'est ça. Ouais. Mais c'est exactement ça. Tu
oui,
vois.
Bien sûr.
Et dans certains cas, effectivement, c'est plus... Il va y avoir de la limitation malgré tout de l'accès dans certains trucs. Enfin, tu pourras pas le mettre en avant dans certains contextes. Et pendant un certain temps, tu avais aussi des limitations sur, par exemple, les aides que tu peux demander.
Dans le cas selon les pays.
D'impôt. En France, en tout cas, le crédit d'impôt était limité jusqu'en 2015 aux jeux qui n'étaient pas classifiés.
PEGI 18.
PEGI 18.
Bah, pour le coup, tu peux demander des crédits d'impôt pour du jeu PEGI 18.
Ouais. La question a été amenée en mode. C'est pas parce que c'est un jeu conseillé aux plus de 18 ans que c'est un jeu pornographique, que c'est un jeu ultra violent et que c'est un jeu qui ne correspond pas aux bonnes mœurs d'une certaine façon. C'était une façon un petit peu de l'amener aussi à l'époque.
Oui. Et de toute façon, c'est déjà une des problématiques par rapport au pays qui est finalement en fait on ne va définir le l'âge recommandé uniquement par rapport au contenu hors interaction, on va dire, pour l'instant du jeu. C'est-à-dire que c'est vraiment qu'est-ce qu'on te montre à l'écran, qu'est-ce qu'il y a écrit. Le reste, on s'en tape.
Ce qui est explicite. Actuel,
ouais. Voilà, ouais. Ouais. Le reste, on s'en tape, tu vois, vraiment.
La difficulté d'accès, on va dire
le niveau de compréhension.
Le niveau de réflexion nécessaire pour comprendre le jeu, ce genre de choses, ça ne fait pas partie de la discussion.
Effectivement. Est-ce que tu veux bien nous parler de ce qui est censé changer?
Parce que c'est un truc qu'on n'a pas dit depuis le début. Oui. Si on en parle aujourd'hui,
oui.
C'est parce qu'il y a effectivement quelque chose qui va évoluer. Le jeudi 12 mars, la semaine dernière, donc le système de classification des jeux PEGI a annoncé une réforme de ses critères. Il va évoluer à partir de juin 2026 pour, j'ai envie de dire, enfin prendre en compte et intégrer certains éléments à risque présents depuis maintenant de nombreuses années dans les jeux vidéo. L'objectif étant de fournir, donc, comme tu l'as dit aussi, aux parents et aux joueurs des conseils plus pertinents en s'appuyant sur, principalement, donc cette mise à jour va s'appuyer principalement sur l'expérience allemande et son système USK. Donc là, je ne te ferai pas l'insulte d'essayer de prononcer le Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle.
Hein, je vais me contenter d'être un. Non mais.
Alors, en français, c'est l'organisme d'autorégulation des logiciels de divertissement, donc l'équivalent du CEL.
Planetenverdeidigung.
Non, c'est un jeu que tu attends beaucoup trop. Ce système allemand USK a été mis à jour en 2023 pour s'adapter au durcissement de la loi fédérale allemande pour la protection des jeunes dans l'espace public et de la régulation de la consommation des médias par les mineurs.
C'est un
ensemble en fait qui touche les règles sur le tabac, l'alcool, les établissements comme les casinos, les boîtes de nuit, mais aussi les jeux vidéo. Donc ils ont mis un peu tout ça dedans.
Et il faut bien comprendre que la gestion de la violence à l'écran dans les jeux vidéo en Allemagne, ça a été...
C'est un délire.
Un grand délire.
C'est comme un peu l'Australie.
Qui explique des choses de façon étrange, genre pourquoi l'Allemagne est devenue l'un des premiers marchés sur les jeux d'aventure point and click. Parce que, en fait, à un moment, si tu faisais autre chose que ça, c'était très très compliqué de faire valider ton jeu.
Donc voilà, donc effectivement, depuis 2023, cette réglementation a évolué en Allemagne pour justement intégrer des éléments supplémentaires aux éléments que tu as cités, la violence, le sexe, l'utilisation de drogue, etc. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, de nouveaux critères vont être intégrés à la classification, aux décisions de classification du PEGI. Donc, alors, information intéressante dont on va reparler, ça ne concernera que les jeux qui arriveront sur le marché, qui seront commercialisés à partir de juin 2026. Ce changement ne sera donc pas rétroactif. Mmh. C'est une discussion qui est intéressante.
C'est pour ça que tout à l'heure, je dis bien FIFA 22.
Par exemple, bien sûr. Ces nouveaux jeux, donc, seront classés en plus des critères déjà existants selon quatre critères supplémentaires, ceux intégrant des achats intégrés dans les jeux. Mmh. Les jeux proposant donc des offres limitées dans le temps ou en quantité pourront être classés PEGI 12. Et les jeux intégrant des NFT ou des mécanismes liés à la blockchain seront classés PEGI 18. Mmh. Les NFT ayant aujourd'hui complètement disparu parce que tout le monde s'en fout, était-ce bien nécessaire de les ajouter aujourd'hui ?
Mais
ça fait partie des différents éléments
qui
font que...
Non, mais il y a toujours des jeux Web3 qui sortent.
Oui, il y en a encore.
Pas.
C'est rare, mais il y en a encore.
Alors attention, ça a toujours été de la merde.
Oui.
Mais il y en a... Toi, tu ne suis pas les technobros.
Alors, non, parce qu'ils ont tort depuis longtemps. Donc...
Mais c'est pas parce qu'ils ont tort qu'il ne faut pas les suivre.
Ah, mais ils tentent des trucs, mais personne n'y joue.
Mais tu vas pas assez souvent sur Twitter, toi.
Mais personne n'y joue, alors. Bref, bon, ça montre quand même qu'ils ont un petit temps de décalage.
Oui, complètement.
Avec la réalité.
Et puis, c'était justement ma question. Alors, parenthèse, du coup, pour cette émission, je n'ai pas préparé le sujet. Et du coup, c'est intéressant de.
Bienvenue.
C'est intéressant de rebondir.
Elle est des nôtres.
J'ai réussi.
Elle prépare pas l'émission comme les autres.
J'ai réussi à ne pas préparer le sujet pour ce soir. Et du coup, je découvre en même temps que vous vous expliquez, et okay. Donc c'est intéressant. Et ce qui fait que justement, c'était une de mes questions, c'était quid des microtransactions dans les jeux ? Est-ce que voilà ?
Ça en fait complètement partie.
Donc très bien.
Puisque donc voilà, les
jusqu'à présent, il y avait rien.
Ouais, c'est ça.
Non,
on s'en foutait.
Il y avait un seul élément qui était noté, qui était présenté, c'était la présence de jeux d'argent, le gambling, précisément.
Ouais,
oui.
Ouais.
Et là, en fait, ça continue dans cette direction-là en ajoutant donc différents éléments d'achat intégré, mais aussi de comportement.
Sachant que, par exemple, il y a eu une très grande lutte de Electronic Arts qui ont été les premiers à mettre ça de façon très forte dans leur jeu premium,
ouais.
Pour dire que non, tout ce qui est FIFA Ultimate Team, c'est-à-dire en gros tu mets de l'argent pour où il y a une roulette qui sort et qui te fait apparaître
des paquets de cartes,
qui te fait apparaître des paquets de cartes et que tu peux avoir des chances d'avoir des super cartes et que selon ce que tu mets comme argent et selon le nombre de fois que tu le fais, tu as des bons tirages. C'est pas du tout un gacha. Bref, voilà.
C'est le phénomène du gacha.
Voilà et ils ont lutté pour le coup. Pourquoi ? C'est la seule raison pour laquelle ils luttaient pendant très longtemps pour dire ben non, c'est pas des jeux d'argent.
Ouais.
Absolument pas. Pour le PEGI et deux, surtout pour la Belgique.
On en reparlera. Mais effectivement, mais c'est, voilà, les jeux d'argent, donc voilà, les achats intégrés là-dessus. Ça ajoute également donc, les loot box, donc là, précisément, donc, les achats de cartes, notamment dans le cas de FIFA. Donc les objets aléatoires payants, ils ont réduit ça comme ça. Classification donc sera par défaut PEGI 16 avec possibilité de PEGI 18 dans le cas de jeux de casino spécifiquement, vraiment spécifiquement des jeux de casino. Ensuite on vient intégrer un truc pas inintéressant en termes vraiment de fonctionnement, qui sont les mécanismes incitant à revenir régulièrement jouer comme les quêtes quotidiennes.
Ah oui.
Beaucoup présents dans les jeux mobiles aussi.
Ouais.
Classification PEGI 7 de base, mais pouvant monter à PEGI 12 si ces systèmes pénalisent les joueurs qui ne reviennent pas régulièrement se reconnecter sur leur jeu.
Mmh.
Par exemple avec la disparition d'objets ou de la perte de bonus, si tu ne reviens pas régulièrement accomplir ces quêtes quotidiennes. Et le dernier élément, qui n'est pas inintéressant aussi, même s'il est plus, on va dire, préventif qu'autre chose, les fonctionnalités de communication en ligne. C'est-à-dire qu'ils veulent classer PEGI 18 les jeux offrant des communications totalement libres, sans possibilité de blocage ou de signalement de comportement toxique ou de harcèlement ou ce genre de choses.
Mais Valorant ?
Alors non, parce qu'il y a un moyen de bloquer et de signaler les personnes.
C'est arrivé.
C'est arrivé. Non, mais, bien sûr que c'est arrivé. Mais bien sûr. Mais techniquement, tu as malgré tout dans, intégré au jeu la possibilité de. Donc, comme le dit spécifiquement pour cette possibilité de communication en ligne, là, je vais un petit peu plus vite, mais on reviendra dessus. Le point 4, donc le quatrième point de ces trucs-là, le Dirk Bosman, donc le Belge à la tête du PEGI, avait présenté ça comme en disant donc que en fait c'est un élément donc de qui n'existe pas aujourd'hui, qui n'a pas de réalité, c'est-à-dire qu'il y a pas, il n'existe pas de jeu à leur connaissance qui ne permette pas de bloquer ou de signaler des comportements toxiques de ce genre, mais qu'ils préfèrent en fait prendre les devants et justement de permettre aux jeux de développer des outils pour mieux encore orienter et contrôler tout ça, pour leur permettre de redescendre d'un PEGI, puisque ça permettrait, ils envisagent en fait de laisser les jeux qui permettraient en fait de bien contrôler ça en PEGI 12. Ils posent la question, ils posent la question à ce sujet en fait, en disant est-ce que ça va pas ouvrir une sorte de loophole, donc de trou juridique en fait, pour de vide juridique pour, ils l'avaient dit en fait au site Eurogamer, en disant, voilà, pardon, pas PEGI 12, mais PEGI 7. Pour nous, c'est une phase expérimentale. Nous devrons voir dans un an si cela existe réellement, si des systèmes internes de contrôle de ce genre de communication et tout permettra, en fait, de... Alors, tu as les communications, tu as les achats intégrés, enfin bref, ça concerne un certain nombre de choses qui permettraient, en fait, de ils veulent, en fait, mettre la balle dans le camp des éditeurs pour qu'ils intègrent des outils supplémentaires à ce qui existe déjà. C'est un petit peu comme ça qu'il l'avait tourné. Encore une fois, c'est très discutable et ce sera très discuté.
Oui, sachant qu'en plus, il y a aussi beaucoup de jeux où, par exemple, pour des jeux soit en coopératif, soit compétitif, où les gens vont passer par un système externe que le système du jeu.
Oui, mais là, du coup, les jeux ne peuvent pas faire grand-chose.
Oui, c'est pour ça.
C'est pour ça que c'est
je sais que, par exemple, la plupart des jeux auxquels j'ai joué, en général, c'était on va sur Discord, en fait, et on n'utilise pas le truc. Alors que le jeu propose un système de chat, truc comme ça, et de discussion, tu le vires directement, on fait tout sur Discord, et puis on fait ça, quoi.
Mais pour revenir, donc dans l'ordre, j'ai envie de dire, des éléments proposés. Donc, tu parlais d'achat intégré, de lootbox, ce genre de choses. À noter que un jeu comme Fortnite, par exemple, un bon exemple,
qui est PEGI 12.
Est déjà PEGI 12, absolument. Oui. Ce qui donc ne changera rien pour lui, puisque par rapport aux différents éléments qu'on a cités, ça le classerait toujours dans les PEGI 12.
C'est un jeu PEGI 12 à cause du côté Battle Royale, violence, flingue, tir sur des gens.
Du coup, ça ne rajoutera pas toute la partie achat, etc. intégrée, ni même le côté revenir régulièrement, etc. Donc, ce qui vous donne un petit peu une idée déjà de l'efficacité du principe. Et donc, oui, ça fait aussi partie des différents éléments. Parce que si un jeu décide de désactiver ses achats en ligne, le jeu pourrait repasser PEGI 7. C'est-à-dire que si tu as la possibilité de dire « Ok, je le désactive complètement de mon expérience utilisateur », tu peux redescendre. Bref, c'est une discussion. Le critère numéro 2, c'est celui sur les lootbox. Donc c'est sur les achats d'objets aléatoires, avec un contenu en fait aléatoire qui peut être plus ou moins rare et donc avoir plus ou moins de valeur. Donc système de gacha comme tu l'avais dit Xavier, mais aussi de clés permettant d'ouvrir ces différentes boîtes. Et là on pense évidemment, on te voit Counter-Strike, tu es là, tu es pas loin, on va parler de toi.
Counter-Strike est déjà 18 hein, me semble-t-il, hein, donc,
mais pour d'autres raisons.
Pour les raisons de contenu du jeu,
voilà. Mais malgré tout, c'est un élément intéressant parce que ça le concernerait aussi directement.
Bien sûr, mais par contre, tu vois, par exemple, des jeux comme, tu sais, les fameux jeux Disney d'échange d'assets, d'échange de cartes, etc. Les Dreamlight, Dream Valley. On invitera Lysandra qui nous parlera mieux de ce genre de choses. Mais tu vois, ça, c'est du PEGI 3 qui va passer en PEGI 7, voire PEGI 12, selon comment c'est fait.
Bien sûr. Donc, parce que du coup, oui, effectivement, donc, tu l'as cité tout à l'heure, effectivement, tu l'as évoqué, Electronic Arts, qui a un très gros intérêt dans l'histoire, c'est évidemment le
mastodonte
du jeu vidéo. Oui, Richicello, qui a son énorme influence sur le sujet.
C'est grâce à lui.
eSports FC, anciennement FIFA, truffé littéralement de paquets de cartes à acheter pour constituer son équipe, comme tu le disais, avec un système de rareté, de qualité, système incitant les joueurs à toujours vouloir en ouvrir plus pour trouver des cartes d'une valeur toujours plus grande, même logique que pour des cartes Magic ou Pokémon, mais en jeu vidéo. Ce jeu, donc, eSports FC, il pourrait tout à fait passer, avec la prochaine mise à jour du PEGI, passer en déconseillé en moins de, 18, de 16 ans. Pardon.
16, oui.
En moins de 16 ans, alors que le public visé, évidemment, par Electronic Arts, pour un jeu de sport, de football, etc., enfin, le sport le plus populaire du monde, avec un de ces jeux, donc, phare, évidemment, le plus large possible, les plus, et évidemment, aussi toucher les plus jeunes possible, ouais. Pour que ce soit leur première expérience et leur expérience.
De toute façon, actuellement, c'est effectivement, comme le disait, c'est un PEGI 3 pour ce type de jeu, comme la plupart des jeux de sport, type Top Spin ou n'importe lequel, quoi. Ouais. Après, voilà, comme le disait Bettina, à voir quelles conséquences ça aura sur les ventes des jeux. Probablement nul.
Bah ouais.
Vu le public visé.
Tu vois, c'est voilà. Et même de tous les autres, finalement. Enfin, je veux un petit mot quand même sur Counter-Strike, quand même. L'anomalie Counter-Strike, à l'époque, Counter-Strike Go, aujourd'hui Counter-Strike 2. Vache à lait total, hein, de Valve qui, depuis des décennies, leur rapporte plusieurs centaines de millions de dollars par an. Complètement truffé de lootbox, qui est déjà donc, classé PEGI 18. Mais dont de nombreux joueurs professionnels sont actuellement mineurs.
Bien sûr.
Je peux vous citer des joueurs d'équipes professionnelles, mais on peut citer le meilleur joueur du monde actuellement, le français Mathieu Zaïwou Herbeau, qui gagnait déjà des tournois en LAN alors qu'il n'avait que 17 ans, dans un jeu recommandé, déconseillé au moins, ouais, 18 ans.
Mais c'est fou ça, je ne savais pas du tout que du coup des joueurs pro étaient mineurs.
Peut-être un moment, il faudra qu'on fasse une vraie émission sur tout ce qui va être l'e-sport de manière générale.
On en a parlé entre nous.
Mais pour le coup, il y a vraiment. Enfin, la plupart des carrières s'arrêtent à 21-22 ans. Hein. Alors, elles commencent très tôt. Hein.
Je sais qu'ils sont jeunes.
Le pic, c'est 22 en général pour la grande majorité des jeux. Ouais. Parce que ça demande, en fait, une certaine coordination main-œil.
On est bien d'accord.
Qui se dégrade très, très vite.
Une très grande réactivité, tout ça. Non, mais je sais qu'ils sont jeunes. Mais je pensais pas qu'ils pouvaient commencer.
Ah non, mais il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de pros qui ont 15-16 ans.
Bien sûr, il y en a 15-16 qui sont déjà dans des équipes, dans des équipes académies de certaines équipes pro. Ça existe aussi, ça se fait beaucoup. Et notamment dans le cas de Counter, qui normalement, effectivement, est déconseillé dans le cadre de l'Union Européenne, mais pas que. Parce que tu as aussi des gens qui viennent. Tu as un des joueurs professionnels actuellement, il est mongol, il vient de Mongolie, et il a 17 ans.
Oui, il joue actuellement, par exemple, le fameux Faker, qui est une légende absolue sur League of Legends. Quand il est devenu super connu et tout ça, il a commencé, il avait 16 ans, je crois, 16-17 ans.
Sûrement, oui.
Et si c'est une légende, c'est parce que je crois que maintenant il doit avoir quasiment 30 piges. Et qu'il joue.
Pas encore, mais presque. Ouais.
Mais pas long.
Il a encore le niveau.
Et on considère qu'à 30 ans, pour être professionnel de e-sport à 30 ans, c'est 10 ans après que ça soit fini, tu vois.
Parce que non, mais bien sûr.
C'est de la folie. C'est des carrières très courtes et qui commencent en général par des gamins qui bouffent du jeu vidéo à 10 ans, quoi.
C'est ça,
oui, mais tu vois qu'il y a des poulains qui commencent très tôt, je suis pas surprise du tout. Enfin, que du coup, ils s'entraînent, il y a aucun problème. Mais à partir du moment où ils rentrent dans la compétition, c'est bizarre qu'il n'y ait pas un âge minimum.
Le truc, c'est que on parle du PEGI parce qu'il est européen.
Ouais.
Donc il va concerner la France, mais il n'est pas mondial. T'as le SRB américain qui est un petit peu différent, et qui a d'autres façons d'être, et qui n'est pas non plus coercitif, qui n'est pas non plus n'est pas sous la base d'interdiction, qui encore une fois c'est de l'information, c'est du conseil, c'est de la recommandation. Là aussi, et dans la plupart des pays du monde, sont basés un peu sur la même logique, de pas t'interdire, comme on pouvait le dire, par exemple. J'avais vu donc quelques articles en fait qui parlaient de cette évolution des règles du PEGI. Un vendeur de d'une des plus grandes enseignes de jeux vidéo en France en parlait sur le site D-Labs, qui est un site qui fait surtout de la publicité pour des offres, mais ils font de temps en temps des articles. Et je tombais sur celui-là. En fait, le mec disait, un exploitant de cinéma qui fait entrer des gamins dans un film interdit à moins de 12 ans, il fait fermer sa salle. Moi, je pourrais très bien vendre des GTA à des minots, mais je le fais pas parce que je suis responsable, mais techniquement j'ai aucune obligation légale de ne pas le faire.
C'est ça, d'ailleurs c'est un truc que j'ai constaté par rapport à l'entourage de mon héritier, la plupart, en primaire, la plupart de ses potes connaissaient et jouaient à GTA 5.
Bien sûr, oui.
Voilà, c'est pas encore 10 ans.
Ils étaient en primaire, pas 10 ans. C'est un classique, quoi.
Et du coup, voilà, c'est effectivement, ça fait partie effectivement des points qui montrent que l'efficacité, pour l'instant, bon. Pour faire vite fait le tour en fait des différents points, différents éléments, et notamment les mécanismes d'incitation à revenir quotidiennement, donc ils peuvent entraîner ces discussions. Un gamin qui vient dire à ses parents, je dois jouer, sinon je perds ma série en cours, ouais. donc les bonus qui vont avec, ou parce qu'il y a une quotidienne, je dois que je dois faire et donc je dois jouer. Et donc ces discussions qui peuvent être extrêmement difficiles.
Oui, puis
ça
encourage une forme d'addiction en fait en rendant.
Ouais. Je ne peux pas venir manger, j'ai raid.
Voilà.
Ouais, ça sent le vécu, ça.
Les addictologues parlent de comportements problématiques en fait et de comportements problématiques avec les écrans. Pas forcément d'addiction spécifiquement parce qu'ils ont réservé ça à d'autres types.
Ce truc de rendre obligatoire de se connecter régulièrement, ça encourage du coup cette vision de je dois me connecter, et du coup, c'est là
que tu vois que ce qui est prévu là pour l'instant, la mise à jour et le changement qui est prévu pour juin, c'est pour faire passer ces éléments-là en PEGI 7.
Ok.
Et seulement PEGI 12 si, et seulement si, il y a pénalisation avec l'absence donc du joueur par la perte de contenu ou de statut. Ça fait partie des éléments qui ont fait réagir des gens en disant c'est intéressant que vous ayez intégré certains comportements, certains éléments dans les jeux, mais vraiment vous n'êtes pas allé assez loin.
Ouais.
Dans certains comportements, notamment celui-ci,
ouais.
C'est effectivement un article de Factor News, si je ne dis pas de bêtises, qui disait que effectivement, ces signalements leur semblent trop bas.
Oui, c'était l'acteur de. Oui, c'est sur Factor News. Je l'avais aussi pour préparer cette émission.
Voilà.
Effectivement.
Les mécanismes qui jouent sur le FOMO, donc la fear of missing out, donc la peur de manquer quelque chose, qui est vraiment au cœur de ça.
Ouais.
Les systèmes de loot box, notamment, sont conçus pour créer un engagement compulsif auprès d'un public.
Le principe des jeux services de manière générale.
Mais le problème, en fait, c'est que justement, ne pas le déconseiller à des gamins d'un certain âge, alors que c'est un public en plein développement cognitif. Et ce qui peut avoir vraiment un impact aussi sur plein de choses ensuite, sur ta façon en fait, d'intégrer et de réagir à ce genre de mécanisme.
La partie qui m'embête, addictif. Moi, effectivement, il y a tu parles du coup du côté cognitif et l'incitation et tout ça. Mm-hmm. Moi, la partie qui m'embête, c'est celle sur les microtransactions et en particulier celle sur la présence de monnaie, de monnaie alternative.
Mm-hmm.
Je pense notamment à Fortnite avec ses V-Bucks, etc.
Mm-hmm.
Ou en gros, pour ceux qui ne connaîtraient pas, sur Fortnite, quand tu veux acheter du nouveau matériel ou des nouvelles parties de personnalisation de ton personnage, de ce machin, tu n'es pas censé le payer avec du vrai argent, tu le payes avec des V-Bucks. Donc, qui est une monnaie qui s'achète celle-là avec du vrai argent.
Oui.
Tu viens masquer le vrai argent à travers une autre monnaie qui a une autre échelle de valeur.
Et pour obtenir des V-Bucks,
il faut la carte bleue.
Il faut une carte bleue. Donc, t'es un certain âge normalement.
Normalement, oui.
Normalement.
Que ce soit validé par les parents.
Voilà, c'est ça. Et le fait que donc tu le mets là, je parle de Fortnite, mais il y a. Enfin, c'est le principe de quasiment tous les free-to-play.
Oui, tout à fait.
D'avoir ce genre de choses, voilà. Ou même, enfin, je sais pas.
Sur les jeux mobiles.
Ouais, c'est ça. Je joue à un jeu mobile où c'est juste une sorte de mot croisé. Et tous les deux jours, en fait, tu as tant de pièces de monnaie pour 2,99€.
Oui, bien sûr.
Et pour moi, ça, rien que ça, cette incitation, c'est 18+, en fait.
Bah, ça devrait, oui.
Parce que pour l'acheter, je suis désolé.
Besoin d'avoir de l'argent, d'avoir une carte bleue.
Par définition, ta première carte bleue.
C'est pour ça que moi je trouve ça étonnant.
Peut-être tu l'as à 16 ans, tu vois, mais en tout cas pas à 7 ans.
Ouais. Et encore, 16 ans, c'est une carte de retraite, t'as même pas le droit de payer, je crois.
Je sais pas.
Enfin, 16 ou 18, mais en tout cas, ça doit correspondre aussi à la validité bancaire de la chose.
C'est-à-dire
que tu peux.
C'est ça.
Donc ça me paraît.
Tu dois passer par les parents.
Le fait que le PEGI se contente. Enfin, là, ça évolue, mais de base, se contente de qu'est-ce qu'il y a dans le jeu et pas des pratiques qu'il y a dans le jeu. Et ben, moi, je trouve ça. Insuffisant, quoi.
Même en ouvrant effectivement à certaines pratiques, tu continues en fait de mettre tout le poids de la responsabilité sur les parents. Je comprends la logique, mais parce que malgré tout, ça fait quand même partie de plein de choses, de leur responsabilité aussi, mais. Il n'y a pas le même type d'interdiction et de sanctions et d'encadrement que le cinéma, comme on l'a dit par exemple.
Mais tu vois, moi je suis par exemple un film avec le contenu d'Assassin's Creed serait déconseillé au moins de 12 ans.
Ouais, ou 16, on va voir.
Faut voir à quel point c'est graphique et voilà. Mais jamais 18.
Jamais 18. Donc, 18 ans au cinéma, il est quand même très spécifique.
Oui, c'est plutôt pour les films porno.
L'ultra-violence. Voilà. Sans justification scénaristique.
Mais c'est pour ça qu'en fait, je pense déjà que je reprends exprès la classification du cinéma parce qu'elle est assez spécifique en France, vu que souvent les pays anglo-saxons hallucinent sur parce qu'elles disent qu'en gros nos recommandations sont très bas par rapport aux pays anglo-saxons où ils mettent à fond. Genre nous les Marvel, t'y vas en famille avec tes gamins de 7 ans. Ouais. Et chez eux c'est 13 ans et accompagné d'un parent, sinon c'est mort.
Ok.
Minimum. Et encore, je parle pas de. Quand il s'appelle. Aux États-Unis, t'as pas 18 ans, tu vois pas.
Mais ils ont une tolérance différente aussi par rapport à d'autres.
En France, je crois que c'était 13+, 12+, je sais même plus.
Mais tu vois, par exemple, un des éléments, effectivement, actuellement évoqué par le PEGI pour cette amélioration, entre guillemets, des critères, enfin, cette augmentation des critères. Et il y a un peu la logique de l'harmonisation européenne aussi, parce que c'est parler de l'exemple allemand, par exemple, qui sert un petit peu de base à ce mouvement. On peut parler aussi rapidement de la Belgique, comme tu l'as dit. La Belgique, en fait, sans considération pour le PEGI ou autre système d'autorégulation de l'industrie, les jeux à lootbox, ils sont simplement interdits. Pas aux mineurs, pas à qui que ce soit, ils sont juste interdits depuis 2019.
En gros, ils disent les jeux d'argent en ligne, c'est non.
Parce qu'en fait, ils sont considérés comme des jeux d'argent et qu'en Belgique, il faut une licence officielle de la commission des jeux de hasard pour en faire le commerce, licence que ne possèdent pas les éditeurs. À partir de là, pour commercialiser ton jeu sur le territoire belge, que ce soit physiquement dans les boîtes ou en ligne, il te faut cette licence.
Okay.
Parce que, donc, effectivement, ce sont des. En fait, ils ont des versions édulcorées des jeux, notamment de FIFA.
De Counter-Strike. Encore, en fait, ils ont des versions édulcorées des gros jeux. Et les autres jeux, juste, ne paraissent pas.
Ouais.
Parce qu'ils n'ont pas.
Ils s'emmerdent pas. C'est trop.
Pour un territoire comme la Belgique.
Oui, voilà. Parce que le pays est petit.
Il y a trois personnes et demie pour eux. C'est un petit.
On parle beaucoup de l'Union européenne, effectivement, de l'harmonisation, etc. Et souvent, l'harmonisation par la plus restrictive des juridictions locales, c'est un élément en tout cas c'est une direction en tout cas qui pourrait être prise si c'était une décision qui était prise au niveau de l'Union européenne.
Pour le coup, c'est quelque chose dont on avait parlé dans une précédente émission. On avait dit ça serait, enfin vu ce que les décisions que prennent la Belgique et lorsque je parlais des attaques de Electronic Arts et des justifications, c'était précisément pour ça. Et que à la fin, on avait conclu en disant que ce serait bien en fait de reprendre les règles de la Belgique, bénéfiques aux joueurs et aux consommateurs. Tout simplement.
Et c'est pour ça que le PEGI, encore une fois, là actuellement, prend les devants. Il dit regardez, on fait des efforts, on change les choses pour éviter que ce soit le régulateur européen qui vienne dire vous êtes gentil, mais on va vous expliquer ce que vous avez le droit de faire ou pas.
La logique du PEGI à la base, comme c'est on l'avait dit au début.
Tu peux même la rapporter à la logique française, simplement du CNC, qui est lui celui qui décide pour la classification des films au cinéma, qui est une institution qui n'est pas créée comme le PEGI par l'industrie elle-même, qui ne vient pas de l'industrie, qui est évidemment en communication directe et étroite. Ils ont des liens, mais bref, c'est pas le même, c'est pas une autorégulation pour dire venez pas nous emmerder, vous inquiétez pas, on fait ce qu'il faut. Et de toute façon, on a informé les parents. À partir de là, c'est plus notre responsabilité, c'est les parents qui doivent gérer.
De toute façon,
la position du PEGI, c'est ça.
Alors que pour les cinémas, c'est le distributeur en fait. L'exploitant plutôt. C'est l'exploitant qui doit gérer, vu que en fait quand on parle des films, tu sais, moins de 12, moins de 16, moins de 18, c'est il y a les recommandés moins de 12 où tu peux emmener des ados plus grands si tu veux ou plus petits si ton problème. Par contre, il y a des films qui sont interdits aux moins de 12 ans. Là, je pense à les films d'horreur, on va dire light,
les graphiques quand même.
Les films genre Destination Finale, ce genre de trucs, ou qui sont pas interdits au moins de 16 ans, mais qui sont très graphiques, qui sont littéralement interdits au moins de 12 ans. Voilà. Et en général, c'est vrai que les exploitants, ils disent c'est cool parce que ça ramène des gens, mais par contre, c'est chiant parce qu'il faut qu'on contrôle les cartes d'identité de tout le monde et ça les fait chier.
Et du coup, il y a un vrai impact sur. D'ailleurs, un impact qu'on peut. Pas forcément dans la mesure, mais éventuellement rapprocher des pertes de monétisation, par exemple, d'une vidéo YouTube classée parce que du contenu. Parce que les YouTubeurs font, par exemple, utilisent des gros mots. YouTube va les classer directement en réservé aux adultes et du coup la monétisation sera pas du tout la même parce que le public sera pas du tout possible. C'est une perte de public potentiel.
Je comprends. Mais
qui est lié finalement à la classification.
Après, il y a un rapport différent parce que là, c'est diffuseur qui te paye. Donc c'est un peu particulier.
Mais d'accord, mais si tu veux, je fais un peu le lien par rapport à ça.
Oui, bien sûr.
Tu vas construire le contenu que tu vas proposer par rapport à qui tu veux le proposer. Donc c'est à quel moment tu vas en fait couper dans ta création artistique, dans ta proposition artistique pour justement l'ouvrir au maximum à un public le plus grand possible.
Enfin, de toute façon, là, on va s'approcher aussi de la problématique qu'on entend sur Discord depuis pas très longtemps, Discord veut en fait avoir l'âge des gens pour savoir plein de choses sur toi globalement. Mais si demain, par exemple, tu dis au distributeur, en fait, il faut que tel jeu, t'as pas le droit de le vendre à des gens de moins de tel âge, ça veut dire que sur chaque compte, il faut savoir quel âge ont les gens.
Mais c'est pour ça que j'ai trouvé un article d'opinion qui n'est pas inintéressant sur gameindustry.biz qui considère que ces changements sont une réponse préventive, comme on l'a déjà dit, pour éviter que le régulateur européen intervienne sur le sujet dans le cadre du Digital Fairness Act destiné à interdire les pratiques numériques trompeuses, donc nos fameux dark patterns dont on a déjà parlé, les loot box, les comportements, etc., pour protéger les consommateurs et encadrer le e-commerce dans l'UE. On l'a à peine évoqué, mais malheureusement, on n'aura pas forcément le temps d'aller plus loin, mais c'est important de le rappeler quand même que ces changements ne seront pas rétroactifs. Donc les jeux déjà sortis ne bénéficieront pas de cette nouvelle classification.
Tu veux dire que Fortnite, qui était en PEGI 12, va rester en PEGI 12, alors que de toute façon,
il n'y a aucune raison
la législation allait le mettre en PEGI 12.
Oui.
Oui, mais techniquement, si tu veux, un jeu qui est déjà sorti, mais qui mériterait effectivement d'être.
Ah oui, oui, le IAFC 26.
Bah 25.
25, pardon, 25.
Il restera
en PEGI 3. Voilà. Ouais. Par contre, le prochain risque d'être en PEGI 16 ou 18.
C'est ça, exactement.
Intéressant.
Ouais. Donc c'est un regret que certaines personnes qui s'intéressent un peu au sujet, notamment des avocats, enfin des personnes dans le cadre juridique, du côté des défenses des consommateurs bien évidemment et pas du côté des éditeurs, regrettent.
Oui. Après voilà, juste pour conclure, c'est par rapport à cette décision sur le PEGI ne change pas fondamentalement la problématique du PEGI sur le fait que c'est juste un indicateur, mais qu'il n'y a aucune réalité.
Parce qu'il n'y a aucune réalité,
en gros, juridique, pénale ou d'interdiction ou de contrôle de quoi que ce soit dessus. Néanmoins, c'est un pas vers une meilleure information. C'est un pas vers une meilleure information du consommateur, même si c'est très loin d'être parfait.
C'est ça.
En fait, c'est considéré comme un pas assez loin et beaucoup trop tardif sur certains éléments.
C'est insuffisant, mais bon, mieux vaut ça que rien du tout.
C'est j'aime bien, c'est sur cette triste note qu'on va arrêter cette émission. Merci Bettina.
Merci Xavier.
Merci Romain. On se retrouve du coup la semaine prochaine. On parlera des trucs plus joyeux. Je ne sais pas.
Parlons des jeux.
Non, on a déjà fait ça la dernière fois.
Allez.
Pas toutes les semaines, d'accord ? C'est fini.
On a parlé de jeux là, on a cité des jeux,
on a même joué en direct, c'était trop bien.
C'était bien le jeu.
Ça marche. Eh ben écoutez, merci à tous et on se retrouve jeudi prochain à 21h.
Salut.
Bonne soirée.